この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
Sonic M avec nous, bonjour, enchanté.
Enchanté, ravi d'être avec toi et puis avec vous, chers auditeurs.
Eh ben voilà, on est à Japan Expo en ce moment justement, là on domine la situation, vous le voyez pas mais on est dans les étages de Japan Expo. Exact. Et justement on va pouvoir se retourner sur cette journée où tu as été en mix le matin, ensuite tu as assisté à la conférence de Real Japanese Hip Hop ici présent qui est à l'autre bout de la salle. Avec Atango qui est exactement, avec tout à fait. Et une séance de dédicace également. Alors, quel bilan de la journée du coup?
Bilan très positif. L'objectif premier, il était de proposer pour la première fois à Japan Expo des spécialistes de la culture hip-hop. Et pour le coup, je pense que le coup, il est réussi. Le public qui est venu était content. Nous aussi, on a rencontré des belles personnes. On a eu une belle réaction du public. Donc ça nous encourage justement à proposer ça encore plus. Parce que l'idée, c'était d'aller sur un terrain dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire un terrain de gens qui ne sont pas obligatoirement sensibles au hip-hop. Ils sont sensibles à la culture japonaise, mais pas obligatoirement au hip-hop, et encore moins au hip-hop japonais.
Est-ce que vous avez des gens qui vous ont balancé directement « Ah ouais, je connais le hip-hop, je connais Samurai Champloo ».
Non.
Non ?
Non, pour le coup, non. Parce qu'en fait, ils entendent que c'est du hip-hop, mais ils ne le considèrent pas comme du hip-hop. C'est de la musique d'animé. Tu vois ce que je veux dire?
Okay.
Donc pour eux, c'est équivalent à une autre musique qui serait pop-rock. C'est juste une musique. Ils se disent pas « j'écoute du hip-hop ». Nous, fans de hip-hop, on va se dire « ouais, il y a le mec du Wu-Tang qui a fait la bande originale du truc et un truc, voilà ». Mais pour le fan d'animé, pour lui, c'est juste une musique qui a plus une consonance hip-hop, mais c'est pas quelque chose auquel obligatoirement il va prêter attention. Parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'animé.
Donc même ça, comme porte d'entrée, c'est peut-être pas forcément... C'est pas gagné, quoi.
C'est pas gagné, en fait. Ouais. Parce que même s'il a aimé l'animé, ça veut pas dire qu'il va aimer du hip-hop.
C'est vrai.
Parce qu'en fait, les mecs qui aiment les animés, j'en fais partie, hein, mais les mecs qui aiment les animés, parfois, ils vont plus être fans de son pop-rock ou J-pop, etc., que de hip-hop, en fait. Et c'est pour ça que nous, on a ce travail... Bon, après, moi, je suis DJ, donc ça fait partie aussi de mon travail de, comment on dit, d'éduquer la foule, tu vois. Mais de faire en sorte d'amener... à faire comprendre aux gens qu'il y a une scène hip-hop qui est prolifique, qui existe depuis très longtemps, qui est ultra qualitative et qui mérite justement qu'on mette les projecteurs dessus.
C'est marqué en tout cas sur l'affiche de présentation, producteur, ouais. Compositeur, rappeur également. Mais j'ai l'impression en regardant ta carrière que tu es plus producteur et compositeur, ouais. Et que tu, si j'ose dire, proposes des tracks,
ouais.
Et que d'une certaine façon tu les proposes à des MC qui ensuite en disposent. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
Alors, en fait, ma carrière, elle a eu plusieurs étapes. Mon premier album officiel, c'était en 2010-2011 en tant que rappeur. Donc là, je n'étais plus producteur, j'étais toujours DJ. En fait, j'ai toujours été DJ et rappeur. Le côté producteur, ça a été par période. Et j'ai repris le beatmaking, on l'appelle comme ça, en 2017, parce que justement, je voulais travailler sur mon nouvel album et je ne trouvais pas de beatmaker qui pouvait me faire le son dont j'avais besoin. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même aussi. Enfin, allez, je vais être sympa. C'est mon ex qui m'a dit, ouais, tu devrais faire toi-même tes beats, tu vois. Si je peux au moins lui donner ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce qui fait que, en gros, je me suis remis à faire des beats. Et à cette époque-là, j'avais mis un peu le rap de côté. Et ensuite, officiellement, je me suis remis à rapper en 2022. C'était 2 ans, exactement. J'ai sorti un premier EP. Et l'année dernière, j'ai enchaîné avec une série d'EP tous les mois. Et là, je peux te l'annoncer officiellement. Je sors mon nouvel album officiel, parce que j'ai sorti quelques albums, mais on appelait ça des mixtapes, parce qu'il n'y avait pas de promo, c'était juste des sons, etc. Et là, en septembre, je sors mon nouvel album, justement avec des featuring japonais, coréens, etc. Les clips tournés au Japon, tournés à Séoul et tout. Donc vraiment, toujours dans cette dynamique autour de l'Asie. Et donc, ouais, en fait, c'est pour ça que c'est vrai que pour les gens qui me découvrent maintenant, ils voient plus la partie DJ et producteur. Mais en fait, les trois sont au même niveau, en vérité.
D'où il vient le tag d'ailleurs justement?
En fait, c'est un truc que je dis souvent quand j'étais en soirée, quand tu sais, avec les DJ on prend le micro. Et en fait, c'est une phrase que j'avais dit dans un morceau et que j'ai gardé et qui est devenu un tag et que j'utilise partout. Ça me permet, les gens ils le reconnaissent maintenant. Et, ils savent que yeah, your boy Sonic Kim, ils savent que c'est moi. Et c'est une manière de le reconnaître. C'est un peu comme le DJ Khaled, tu vois. On le reconnaît en fait. Donc c'est un peu ça le principe même du tag aussi.
Mais c'est une tradition qui remonte à super loin en plus de ça.
Ça remonte au tout début du hip-hop.
Voilà.
Hein. Et puis c'est aussi, ça s'est développé avec l'avènement des beatmakers. Parce qu'en fait, c'était une manière à l'époque de faire en sorte que même si quelqu'un te vole ton beat, ben, sur ton beat, il y a ton tag. Et donc, tu reconnais, ah, mais c'est lui qui a fait ce beat-là. Donc c'est ça, en fait. Donc, ouais, c'est un peu, on appelle ça une signature sonore.
Voilà. C'est ça. Mais ouais. Tu me parles donc de ce nouvel album où il y aura des featuring coréens, japonais, etc. Mais comment ça s'est fait là, voilà, pour le coup, plus spécifiquement, parce que c'est Japan Expo et qu'on fait une émission sur le Japon, même si on passait de la K-pop avant que ce soit trop cool, justement, maintenant, les gens le font mieux que nous. Mais comment s'est fait la rencontre avec les artistes japonais, en fait?
Alors, en fait, ça a commencé sur mon premier album, parce que mon tout premier album où je rappe, j'avais un featuring avec deux artistes japonais de hip-hop jazz qui s'appellent Takatsuki et Atom, qui avait un groupe qui s'appelait Suika à l'époque, qui était venu en France et que j'avais fait chanter sur... Parce que moi, j'organisais pendant 10 ans des festivals de jeunes talents dans le 95. Et une de mes meilleures amies qui s'appelle Sae Sibo, qui travaille au... voilà, et ben s'occuper de ces artistes-là. Et donc, sur mon premier album, j'avais des artistes japonais. Mais ensuite, comme je dis, il y a eu une traversée du désert, dans le sens où je cherchais des producteurs de musique avec qui travailler, je n'y arrivais pas. Et Sae n'avait pas autant de connexions qu'il fallait pour pouvoir m'aider à développer des connexions avec des rappeurs au Japon. Et il y a 5 ans, je reçois un mail d'un jeune garçon, qui n'est pas si jeune que ça, et qui s'appelle Roger, qui est le fondateur de Real Japanese Hip Hop. Parce que lui avait monté un média sur le hip-hop japonais. Et moi, à cette époque-là, j'organisais des grosses soirées à Paris qui s'appelaient Urban Kawaii, qui étaient des soirées dans lesquelles je jouais du hip-hop japonais, mais pas que, c'était autour de l'Asie, avec une prédominance Japon-Corée. Mais voilà, c'était autour de l'Asie. Et il m'a contacté à ce moment-là et on a accroché. Il m'a dit, viens avec moi au Japon parce que je connais plein d'artistes. Et j'ai dit, je te suis. Et donc, en fait, tout mon réseau rap là, que j'ai développé ces dernières années, à 95%, c'est Roger de Real Japanese Hip Hop qui m'a permis de rencontrer tous ces artistes.
Alors, juste une petite parenthèse comme ça, hors interview, est-ce que tu as fait partie de ce fameux documentaire That's Nip Hop,
etc.? Non, elle est partie, on s'est rencontrés après, juste après. Ah, okay. Donc, mais par exemple, tous les gens qui sont dans le documentaire, c'est des potes à moi, les mecs des Wanted, tout ça, on se connaît tous. Donc, en fait, le milieu hip-hop a un niveau de d'artistes qui sont actifs, on se connaît tous. Okay. Voilà. Après, quand t'es underground, indépendant, c'est plus compliqué, mais ceux qui bougent, qui voyagent, moi je vais aux États-Unis, qui font le tour du monde, etc., on se connaît tous, en fait. Parce qu'on a tous travaillé ensemble et donc, de fait, bah, c'est une petite famille, je dirais.
Okay. Il y a des différences d'ambiance de travail, de rythme de travail entre Français et Japon?
Ouais, mais finalement, ça se rejoint. Parce qu'en fait, en plus, comme on travaille à distance pas mal, parce qu'on travaille ensemble quand on se voit, c'est-à-dire quand on les fait venir à Paris ou lorsque moi je vais à Tokyo, et ben là, je vais en studio avec eux et là, on enregistre, etc. Ou je transforme mon Airbnb en studio, ou on loue des studios, ou on va dans des studios. Ça dépend de l'ambiance et de la relation avec l'artiste, tu vois, ça dépend des uns et des autres. Mais franchement, je vois. Si je vois une différence, c'est l'enthousiasme. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui m'a attiré vers le hip-hop japonais. C'est le fait que moi, ayant fait le tour en France, en bossant avec plein de rappeurs français, etc., il y a... pour ne pas aller trop loin, mais il y a le capitalisme qui a pris tellement de place dans la culture musicale de manière générale, et notamment dans le hip-hop, que les gens te parlent beaucoup d'argent avant de parler de musique.
C'est vrai. Ouais. Et justement, dans la compo, comment ça se passe? Qui propose et qui dispose? Est-ce que c'est toi qui propose un track et il dispose? Ou est-ce que c'est le MC en face qui dit « Ah, j'aimerais bien un truc un peu lo-fi ou un truc comme ça ?»
En fait, comme déjà on travaille à distance, c'est complexe si la proposition vient des artistes. Parce que sinon, ça fait trop d'allers-retours. Dans le sens où il va me dire « Ah, je veux ça », mais en fait, les artistes ne savent jamais réellement ce qu'ils veulent. Donc, tu vas faire 15 allers-retours en lui proposant et la fin. Donc, je suis vraiment dans une dynamique où je propose et ils disposent. Donc, en gros, je leur fais pas. On va connecter. Roger va me dire « Tiens, Sonkem, j'ai trouvé un artiste, il déchire. Tiens, je te donne son numéro. » Je lui envoie une sélection de 5-6 compositions que moi, je considère correspondent à sa voix ou dans lequel je le projette. Parce que parfois, eux, ils vont être dans un style. Mais moi, je visualise en tant que DJ que si je les mets sur ce style-là, ça pourrait grave le faire.
Par rapport au flow,
la terme de voix, la dynamique, la rythmique et tout ça. Et donc, je leur propose un truc. Et à partir de ce moment-là, soit ils accrochent, soit ils accrochent pas. Et c'est ça qui, moi, je trouve intéressant. Parce que d'un seul coup, bah déjà, tu mets un peu l'artiste, pas en danger, mais tu vois, tu lui fais sortir de sa zone de confort. Et donc, ça reste du Sonic M.
ものは何ってごくシンプル島の丘にはないバイブスとディトックスパリスとロンドン次はリオカリブ海公園マイアミでキングスタイン語る前に街ぶ 分の目で確認夢語ってばっかじゃただのスーパーサイズ Me Life 人は悲しいちょ花咲かしビートからビート飛びかける山かし冗談からフェンスフローライスからハイウェイス4からファイプレイステーション所業は無償稼ぐワイケーションここで撮影しようバックに凱旋も、お辞儀のキスコ挨拶 Substart me then it's handsome news やることやって騒ぎ一晩中Sonic and B met the gal Gwangju.
Big shout out to Sonic and S Young L. You can feel this fine line. Wait.매번내꿈과마주한이별과뺏어뺏던말의미없는각사를주고싶어요즘에난빛덩이무슨어떤날지나보니보면날봄비가오후때쯤눈느끼던새로운날꿈만같은날이어제더드문환상속에지금내모습이건재 Show 불어묻힌다는 MC 강한 identity 벗겨뱀피 Show 개푼듯발음보고쇼린소니클리스톤형을만들어가는문화 You got me 영화같은움직임쌓여지는 benefits 여러가지I'm not gonna stop yo, got an outfit. Konnichiwa, what the shit, what young and this. If you love my vibe and words, just follow me. Shout out to Sonic and Wani, Salam and Sami. Yeah, GC, Drake, I'm with your old fans.
Yeah, Sonic and the genius. From Paris to the world. You know the drill. Okay, c'est mon tour de jouer.
Connection from the cell to the street of Shibuya. I paint my dream, unity is the canva. I'm from the city of light, you know the place. Eiffel Tower from France to East Grace. Tokyo Neon Glow meets Parisian chic. It's a cultural blend, not a mystique. I made a global symphony, I found my own way. Prenez le temps d'écouter s'il vous plaît. Chopstick, baguette, share a common ground. I made new friend who never let me down. Kimchi spice, croissant delight. I'm an architectBuilding bridge in the night France, Japan and Korea Je l'avais prédit mais on ne me croyait pas In the rhythm of the life I find my home beat From the Champs-Élysées to the Tokyo streets
Yeah, yeah. Sonic and the genius Leapstorm, Young Hill France, Japan, Korea connection Finland production
Parmi tous les artistes que tu as eus, alors je ne vais pas te demander ton préféré ou quoi que ce soit, mais simplement, est-ce qu'il y en a un avec qui travailler t'as le plus marqué un peu dans n'importe quel sens hein, ça peut être quelque chose d'épique, une anecdote épique que tu as reçue, ou au contraire, une connexion qui s'est faite tout de suite. Est-ce que, voilà, il y a quelques-uns comme ça qui t'ont plus marqué que le reste ?
Bah, y en a beaucoup, enfin, tous, dans le sens où tous, ils ont des histoires. Après, il y en a un qui avait une histoire vraiment intéressante parce que c'était vraiment... Je l'ai trouvé hyper hip-hop. C'est un rappeur qui s'appelle Ryudo. Et on l'avait rencontré par l'intermédiaire d'Ishwan, qui est un des rappeurs avec lequel on a pas mal travaillé, avec lequel on travaille assez régulièrement, qui lui-même est extrêmement talentueux. Il fait partie quand même des meilleurs artistes avec qui on a... Moi, je trouve, j'ai bossé. Mais Ryudo, c'était hyper intéressant parce qu'on était dans le studio avec Ishwan à cette époque-là. Et Ishwan lui a envoyé un message en disant « Mec, il y a un DJ producteur français qui est là. Faut que tu viennes, etc. » Et le mec, il travaille dans la charcuterie, tu sais, dans les trucs frigorifiques à moins 15, etc. Il est arrivé à 23h éclaté de sa journée de travail. Il a écouté le beat que j'ai fait. Il a fait « Oh, c'est trop lourd. » Il est rentré dans la cabine. Il a écrit comme un psycho. Il m'a fait un texte du feu de Dieu. Il a tué le morceau et puis il est reparti dormir. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça... Ça, c'est hip-hop. Parce que moi, quand j'ai commencé à rapper, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des studios partout. Et quand tu avais une opportunité, même si tu es à l'autre bout de... T'es à Sarcelles et tu dois aller à Cergy ou tu dois aller à Versailles, bah, tu prends ton train, tu y vas. Et après, tu sais que tu as une demi-heure pour écrire ton texte et il faut que ton texte, ça déchire parce que tous les mecs dans le studio, ils sont là comme ça, ils te regardent. Ouais. Tu vois. Et ça, en fait, j'ai trouvé que c'était hip-hop. Tu vois, et donc j'ai kiffé. Donc ça, c'est vraiment une anecdote qui m'avait marqué. Même avec Roger, on était là, on se disait, waouh, c'est incroyable en fait, parce que le mec, il avait cette énergie, ce flow, cette envie en fait, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui me fait kiffer de travailler avec des artistes japonais, c'est le fait qu'ils aient cette énergie et aussi encore cette envie de faire les choses, tu vois.
Une
sorte d'authenticité, ouais, qui est aussi propre, je pense, à la façon de penser et la manière de faire qu'ont les Japonais, que tu retrouves véritablement nulle part ailleurs, faut le dire aussi, tu vois. C'est-à-dire que les Japonais, c'est comme si tu disais que les Corses ressemblaient à des... Non, les Corses, c'est des Corses, tu vois.
Ouais.
Ils sont sur leur île. Et les Japonais, pour moi, c'est les Corses de l'Asie, en fait, tu vois. Ils sont sur leur île, ils ont une manière et une façon de faire. Et c'est ce que j'aime, en fait. Parce que, quoi qu'on en dise, ils restent quand même accrochés à certaines visions du monde, de la vie et de valeurs qui moi me correspondent aussi artistiquement, et donc pour travailler avec eux c'est kiffant en fait. Tu vois.
T'imagines que Okinawa pour les Japonais c'est la Corse, alors t'imagines la spécificité. Alors justement, petite incursion aussi parmi les Coréens, pareil aussi, donc beaucoup de collabs avec les Coréens. Il y a une différence de travail, ou alors finalement t'es en terrain relativement connu?
Ouais, sur un terrain relativement connu. Alors les Coréens, je dirais que ceux que j'ai rencontrés, celui avec qui j'ai commencé à travailler, on s'est rencontrés en numérique pendant le Covid. Et après, je lui ai dit, ben, tu sais quoi, mec, ça le fait, viens à Paris. Il est venu, on a kiffé, je suis reparti là-bas. Et maintenant, on a créé une relation qui est assez incroyable. Mais moi, je dirais que c'est plus au niveau du son. Parce qu'eux, en fait, ils ont une industrie qui est la K-pop, qui a fait que l'industrie musicale, il y a une sorte de, pas de similitude, mais quand même, avec la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un investissement public-privé très important dans l'industrie que tu n'as pas au Japon. Au Japon, les rappeurs qui sont venus ici, tu pourras demander à Roger, quand ils viennent et qu'ils voient des centres culturels hip-hop, ils pètent un câble. Ils disent comme ça, le gouvernement, il met de l'argent et il récupère pas, mais vous pouvez venir juste faire de la musique. Oui, vous n'avez pas à payer. Non. Ils disent, mais dans quel monde on est, en fait, tu vois? Alors qu'en Corée, il y a ce côté-là, mais il y a tout le côté, les grosses agences, les labels, ça produit énormément. Parce que, bah, on sait que la Corée, ils ont utilisé la K-pop comme soft power, comme les États-Unis, comme plein de pays, tu vois. Donc, il y a cette dynamique-là qui est un peu différente. Et même dans le travail des artistes, ils ont plus l'habitude. Le côté que j'aime chez les Japonais, mais qui peut être rebutant pour d'autres, c'est le côté qui sont un peu roots aussi, tu vois. C'est-à-dire que, on fait ça, c'est en totale indépendance, quoi. C'est un boulanger, il y a un côté artisanal, voilà, cherchez le mot. Il y a un côté artisanal que tu peux retrouver en Corée, mais comme je dis, en Corée, ils ont une vision, je dirais, beaucoup plus américaine de leur son, de leur musique, de leur truc, et même ça se voit dans les clips, ça se voit dans le rap, dans la manière de poser, etc. Donc, ouais. Mais sinon, ouais, non, il y a, comme je dis, il y a quelques similitudes, mais c'est la grosse différence se fait là, en fait.
Il y a quand même pas mal de différences,
ouais, état d'esprit assez différent, même si qualitativement, je dirais que les deux se valent. Après, j'ai une préférence pour le Japon par rapport au côté, moi j'aime bien les côtés très authentiques de la musique. Il y a de l'authenticité chez les Coréens, puisque ceux avec qui je travaille sont dans ça, mais de manière générale, l'industrie musicale coréenne, il y a cette grosse machine.
C'est ça.
Voilà, tu vois. Donc, ouais.
Sur le poids de l'industrie, justement, est-ce que ça t'a... Alors, j'imagine que ça t'a ouvert plein d'opportunités au Japon. Ça t'a ouvert aussi, je pense, des opportunités aussi en Corée.
En Corée, en France.
Et justement, voilà, qu'est-ce que ça t'a ouvert comme opportunité en France?
En France, en fait, c'est pas que ça m'a ouvert des opportunités, ça m'a permis de me placer là où j'avais envie d'être, c'est-à-dire pas dans le même train que tout le monde. Enfin, je suis pas vieux, mais j'ai connu la période de la musique où le concept, il était que lorsqu'un artiste, il arrive, la première chose qu'il faisait, c'est de scanner tout ce qui avait été fait sur le marché et de dire, je ne ferai pas du tout pareil que tout ce qui a été fait. Et il y a eu un switch, je dirais, dans les années 90-2000, où c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il y en a un qui réussit avec un style de musique, tous ceux qui arrivent derrière, ils font la même chose, parce qu'ils se disent, si ça a marché, moi aussi, je vais le faire. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, a tué la musique, parce que les maisons de disques ont suivi, les radios, les labels, enfin, tout le monde, tu vois. Et donc, en fait, quand t'arrives, moi, j'aime avoir un son différent. À l'époque, quand je suis arrivé avec mon premier projet rap, c'était hip-hop jazz, personne n'en faisait. Après, il y a Oxmo qui a fait l'Hip-Hop Bar, et puis après, il y avait Hocus Pocus, et puis après, il y a eu d'autres groupes, tu vois. Mais même ça, ça a été une mode pendant quelques années, tu vois, Abdelmalik, enfin, tous ces groupes-là, mais aujourd'hui, c'est fini, tu vois. Alors que moi, je suis resté dans cette dynamique où le jazz reste proche de ma musique, etc., par rapport à certains de mes sons. Et d'ailleurs, l'intro de mon nouvel album, tu verras, est Sun Jazz, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Mais, ouais, voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment être... marquer une différence, en fait. Sonic M fait pas comme tout le monde. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que si le pire commentaire qu'on pourrait me faire, on me dira, putain, ça sonne pareil que... Tu vois? Alors là, je me tape la tête contre les murs et je jette le projet, je vais en faire un autre, en fait. Parce que j'ai besoin, en fait, de ressentir même que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Tu vois? Moi, comme je dis aux gens, moi, je propose, les gens disposent. Et c'est vraiment ça, le leitmotiv.
Au-delà de la musique, justement, pour en finir avec ça, est-ce que tu aimerais créer, toi qui travailles justement aussi avec des écoles, qui donc a un pied finalement en dehors de la musique en elle-même, est-ce que tu aimerais créer quelque chose qui soit plus englobant artistiquement, donc mettre toi ton son au service de quelque chose de plus gros? Je pense à la danse, je pense à...
Je
pense à Dengaryu, par exemple, au Japon, qui a carrément participé à un film, enfin voilà, etc.
Oui, ça fait partie des projets sur lesquels je travaille, tu vois, j'allais te le dire, en fait, je travaille sur de la synchro en ce moment. Donc pour placer ma musique dans des films, courts-métrages, je travaille avec des réalisateurs sur justement pour que ma musique vive encore plus, tu vois. Après ça reste une dynamique de travail parce que j'ai toujours travaillé, comme on dit, dans le milieu des agences à 360. C'est-à-dire, je suis DJ, je rappe, je compose, j'organise des événements, j'ai un média, j'ai aussi un magazine, tu sais, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, enfin, je tourne dans tous les trucs et puis on développe Real Japanese Hip Hop. Et Real Japanese Hip Hop, c'est aussi une plateforme à 360 où moi, je m'occupe de la partie prod, événementielle, en produisant les concerts, les événements. Et Roger, il est en train de développer toute la partie média avec le YouTube, le site internet, les interviews, le magazine qui va arriver en papier au mois de novembre. Donc, tu vois, c'est toutes ces deux partie là qui, enfin cet ensemble là en fait, qui fait que ça fait pour moi un ensemble cohérent, parce que je fais pas partie des artistes qui vont dire moi je kiffais toute la semaine en studio, c'est pas possible, parce qu'en fait moi j'ai besoin de respirer, tu vois. Là aujourd'hui, bah j'étais pas en studio toute la journée, mais j'ai rencontré plein de gens, j'ai vu plein de choses, c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me permet d'avoir de l'énergie artistique pour être inspiré pour aller retourner en studio dans une semaine. Et moi des fois pendant un mois je fais pas de son, parce que si je fais du son tout le temps, en fait, ben je finis par rentrer dans une routine. J'ai besoin d'avoir ce truc où, des fois, je ne suis plus du tout dans le son, je vais focus sur autre chose, ou m'entraîner à scratcher pendant 3 mois parce que j'ai une démo ou un spectacle et je veux tout tuer. Et puis après, je reviens sur les beats. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça, l'art. L'art, le fait de passer de l'un à l'autre, parce que les gens oublient qu'être artiste, en fait, ce n'est pas être lié à un médium, c'est avoir une sensibilité aux choses, tu vois. Donc demain, tu pourras me retrouver dans une galerie en disant « j'ai fait une série de toiles de peinture », ça restera du Sonic M. Tu vois, et c'est ça ma démarche. Alors bon, je suis pas dans la peinture en ce moment, mais pour l'instant, voilà.
Tu vois, il y a plus d'urgence, il y a le nouvel album.
Merci beaucoup.
Et vous connaissez, hein, mon site, c'est iamsonicm.com. Le média, c'est Real Japanese Hip Hop. Si vous avez besoin de d'infos, vous envoyez un message sur les réseaux sociaux. Comme je dis souvent, c'est à ça que ça sert. Merci à toi.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canyon 102.2 FM.